duo Denis et Véro. Sans oublier Pinchot.
Boulevard 102.1.
Ouais, le couple est en pause pour la semaine. Semaine de relâche oblige, mais l'avantage de tout ça, c'est qu'Audrey puis moi, ben, on partage maintenant notre quotidien avec Gab Marino, qui est avec nous pour la semaine. Puis à date, t'as l'air heureux.
Oui, hey, checker la lune, tellement hot.
T'es fatiguant.
Hey, est-tu pleine? Elle est belle, par exemple. Non, c'est pleine lune? Demain.
Ah, c'est ça. C'est ça,
demain. Elle n'est pas tout à fait pleine.
Enfin, tu vas commencer à t'extasier.
Ça nous donne le droit d'être un peu fou.
Ah, pour voilà. Ceux qui sont pognés dans la circulation, par exemple, c'est peut-être moins le fun de s'extasier devant la lune.
Oui, puis c'est une grosse soirée à date, là. Si vous êtes sur Laurentienne Nord, la fin de l'accès de la rue Georges-Muir, c'est partiellement entravé. Il y a une panne. Je tiens à vous dire en passant que les bottes de foin puis les cônes sont ramassées.
Bon.
Fait que ça risque de recommencer à rouler dans ce coin-là. Capitale, direction Est, ça se passe entre Henri IV et Laurentienne en ce moment. Ouest, c'est entre Bourg-Royal et Laurentienne. Des problèmes sur Robert Bourassa, direction nord, entre le boulevard Laurier puis la capitale. Charest-Est, ça se passe entre Henri IV et Robert Bourassa. Des problèmes sur Henri IV nord, ça part de, je vous dirais, chemin Sainte-Foy jusqu'à peu près la capitale. Direction sud sur Henri IV, c'est de versant nord au pont. Si vous êtes sur Duplessis-Sud, chemin Sainte-Foy au pont Pierre-Laporte. Des problèmes également dans le coin de Shannon devant la base militaire ou de la Bravo dans les deux directions. Et sur la rive sud, c'est surtout la 20, direction ouest, entre la route du président Kennedy et chemin des îles. Quelques ralentissements, hauteur Taniata. Évidemment, il y a quoi que ce soit d'autre, vous ne vous gênez pas. 88-971-102 texto.
Un peu plus tôt dans l'émission, Audrey, on se demandait à quel moment sa maman, chef de Leadership Québec, qui n'a pas réussi à faire élire aucun de ses candidats, qui n'a pas réussi à faire mieux qu'une troisième place à l'élection municipale, allait faire sa sortie sur la suite des choses. Claude Villeneuve a fait sa sortie hier de Québec d'abord, puis sa maman, on n'avait pas de nouvelles, pas d'écho. Ses candidats qui ont commencé à faire leur propre sortie sur les médias sociaux pour remercier leur équipe, exactement, mais lui, c'était rien pantoute.
Non, puis on avait entendu des rumeurs comme quoi aujourd'hui, il y aurait une sortie. J'ai texté son attaché un peu plus tôt aujourd'hui, puis la réponse que j'ai eue, c'est « Sam ne fera rien cette semaine ».
Oh, c'est loin,
donc,
ça.
Donc, il n'y aurait pas de sortie, effectivement, pour la semaine, ce que je trouve un peu intense, là. En fait, je me permets le commentaire, je trouve ça un peu nombriliste.
Ça, puis l'autre affaire, c'est qu'il aurait pu arracher le diachylon un peu pas mal plus rapidement pour tout le monde. Fait qu'on sera quand même en mesure de surveiller ça. Dans les prochains instants, on va parler avec un gars que j'adore, que je connais depuis des années et des années à cause de Denis, entre autres. C'est probablement le meilleur porte-parole pour tout ce qui est sport amateur. Puis c'est pas juste un gérant d'estrade. C'est un gars qui en bouffe du sport amateur, qui a aidé des athlètes à atteindre les plus hauts niveaux, qui lui s'est rendu même jusqu'aux Jeux olympiques. Puis en plus de ça, bien, ça donne qu'on va le voir dans notre TV au courant des prochains mois quand les prochains Jeux olympiques d'hiver vont débuter puis vont être diffusés du côté de Radio-Canada. Puis là, il lance un livre. Vous avez des enfants qui pratiquent des sports. Vous avez des enfants qui essaient de viser toujours plus haut, mais vous ne savez pas comment agir, comment les encourager, comment gérer les coachs à travers tout ça. Dominique Gauthier lance le livre « Oser l'excellence » puis est avec nous pour nous en jaser. Dom, salut, comment tu vas?
Bonjour, bonjour à vous deux, à vous trois. Ça va très bien. Je suis tellement content de vous parler. Puis comme tu l'as dit d'entrée de jeu, on risque de se parler encore 2-3 fois d'ici les Olympiques.
Yeah!
Donc, quel plaisir de collaborer avec vous un petit peu comme ça, ça va être super.
Dominique, comment s'est arrivée l'idée d'écrire un livre sur l'excellence dans le sport à une époque où on dirait qu'on a peur de mettre de la pression sur des jeunes, qu'on dénonce certains comportements? Ouais. Ça a été quoi ton cheminement?
Je trouve justement qu'on est allé trop loin. Le balancier du bien-être est allé un peu trop loin, et pas juste dans le sport, je pense dans la société. Mm. Et je trouve qu'on avait quasiment... De démoniser ce qui était les aspirations gagnantes, de vouloir gagner, de vouloir être le meilleur, c'était quasiment rendu malsain. Alors que moi qui évolue dans ce milieu-là, les athlètes avec qui je travaille, il n'y a rien de malsain là-dedans. Oui, c'est pas des vies normales, mais la victoire, elle ne vient pas au coût du bien-être, elle vient grâce au bien-être. Puis c'est un peu le message que je voulais véhiculer là-dedans, qu'on remette la place de l'excellence au centre de tout, pas juste dans le sport, mais dans notre société. Et à l'école, on protège peut-être trop nos petits garçons et nos petites filles de ce temps-ci, puis on ne les prépare pas pour la vie, puis elle n'est pas juste la vie.
Mais comment,
il y aura des échecs.
Comment on en est arrivé là, tu penses, Doom? Parce qu'on banalise justement la victoire aujourd'hui, puis d'un autre côté, on a peur de l'échec.
Oui. Justement, on a tellement voulu protéger, surprotéger les jeunes, surtout de l'échec, mais même dans notre société, je pense qu'en général, pas juste à l'école, mais même au travail, dans le sport, alors que ça fait partie d'une évolution vers le haut, d'apprendre à perdre. On l'entend souvent, hein, c'est pas d'apprendre à gagner qui est le plus difficile, c'est d'apprendre à perdre, de se relever. Et le sport, c'est donc bien la plus belle école pour ça. On a voulu tellement être inclusif dernièrement, puis je suis le premier à me battre pour s'assurer qu'on encadre bien nos élèves, nos athlètes et qu'on le fasse de la bonne façon. Mais là, à un moment donné, on a tellement voulu surprotéger, je pense qu'on a nivelé vers le bas, un peu trop. Et ce qui fait qu'en voulant tellement être inclusif d'un côté, moi, je trouve qu'on est rendu exclusif de l'autre. Exclusif de ceux qui veulent vraiment exceller puis être les meilleurs dans notre société.
Est-ce que ces jeunes-là payent pour le fait qu'à une certaine époque, la manière de supposément pousser les jeunes vers la victoire, bien, il y a eu certains clichés qui sont sortis, le coach qui leur criait par la tête, certains propos qui ont été rapportés dans les médias, des exemples qui n'ont pas été beaux, entre autres, dans le sport amateur, de la manière dont on gérait les athlètes, puis que notre réaction comme société, ça a malheureusement été de se pousser à l'autre extrême, puis là, on doit se recentrer entre les deux.
Ouais, tu fais bien de le dire, parce que c'est vrai qu'il y a eu énormément d'exagération. Il n'y a pas vraiment un équilibre entre, justement, les entraîneurs qui peuvent décider de ta carrière. Finalement, ils peuvent décider de te sélectionner sur l'équipe ou pas. Ils peuvent t'aider à t'amener vers le haut, mais ils peuvent aussi t'écraser. Puis on a peut-être laissé trop de pouvoir et trop de place à ces entraîneurs-là de la vieille école. Ceux, justement, comme tu disais, qui criaient des noms, des bêtises. Je veux dire, il faut créer un environnement où on peut avoir des discussions difficiles parce que vouloir être le meilleur au monde, c'est pas facile, OK? C'est pas un walk in the park, comme on dit en anglais. Donc, il y aura des moments difficiles, mais il faut le faire dans le respect. Avoir ces discussions-là où on impose la rigueur, mais toujours dans le respect. Malheureusement, on a tellement vu de films et d'histoires d'une autre époque que certains entraîneurs pensent qu'ils doivent crier puis insulter pour obtenir le meilleur de leurs athlètes. Et ça m'écœure aussi d'entendre leurs athlètes. C'est pas votre athlète. C'est un athlète avec lequel vous travaillez. Donc, il y a ce changement de mentalité-là qui doit se produire maintenant, mais tu as raison de dire qu'on paye un peu pour les erreurs du passé, et il y en a encore quand même à ce jour. Je dirais pas que c'est un environnement parfait, le monde du sport, mais on s'en va vers le mieux.
Parce que tu l'as dit, Dominique, puis c'est écrit dans le livre, il faut accepter que l'excellence n'est pas pour tout le monde. Le chemin n'est pas destiné à tout le monde. Oui, l'inclusivité, mais crucial de cesser de faire cela au détriment de ceux qui ont les capacités, la volonté d'exceller. Sauf que dans un monde où, surtout dans le réseau de l'éducation, mais partout aussi, tu sais, le parent, son enfant, c'est la plus belle affaire qui a jamais existé, puis c'est le meilleur au monde. C'est à qui de dire à cet enfant-là, à ce jeune qui est peut-être rendu adolescent, finalement, puis c'était également une des étapes de B210, à ce que j'en comprenais plus tard dans le livre aussi, de commencer en disant, faut évaluer si l'athlète a des chances de faire un podium. C'est qui prend cette décision-là, puis comment on fait cette évaluation-là?
Ouais, ben, il y a deux choses là-dedans. D'un, de voir le potentiel d'un athlète, je vais commencer par ça, parce que c'est le plus facile, là, avec B210, naturellement, ce qu'on fait, nous, on est une fondation qui aide les athlètes à atteindre le plus haut niveau. Donc, on établit vite, soit par des statistiques et par des évidences, très souvent, est-ce que cet athlète-là a le potentiel. On regarde tout, physique, psychologique, l'entourage, l'environnement, son historique et tout ça. Donc, c'est quand même assez scientifique, cette approche-là, mais quand même du feeling, parce qu'il y a des choses, des fois, qui se calculent pas.
Mais juste pour faire un parallèle juste là-dessus, parce que, tu sais, mettons, au hockey, c'est ce qu'on connaît le plus, le repêchage, ça arrive qu'il y en a qui sont repêchés 6e, 7e ronde, puis finalement, deviennent les meilleurs. Mais, donc,
leur pic d'excellence, n'était pas nécessairement au moment où ils ont été repêchés.
Ou évalués.
Non, mais tellement. Mais c'est ça, c'est de voir un peu le problème du hockey, c'est qu'ils imposent le repêchage à 18 ans.
Ouais.
Et il y a tellement de choses qui se passent après. Je l'ai vu dans mon entourage. Mon neveu était recruté par Boston. Mm-hmm. Là, tu vois, il est comme ça. Mais il y en a tellement qui ont levé le nez avant. Il était en 5e ronde. Puis là, il va probablement s'en tirer avec une carrière, pas seulement dans la Ligue nationale. En tout cas, on pourrait énumérer comme on veut. Moi, je pense que c'est fait trop tôt. Et il y a plusieurs sports comme ça qui... je pense au ski alpin, je pense à la gymnastique, pour en nommer que deux, trois. Là, le hockey, la gymnastique, le ski alpin... On va mettre fin souvent à des carrières à 17, 18 ans. On va dire, ah, il est trop tard. Mais voyons donc. Il y a tellement une évolution qui peut se faire après. Puis surtout avec la science maintenant qui nous permet d'avoir des carrières beaucoup plus longues. T'sais, on le voit avec plein de champions qui sont maintenant dans la quarantaine. On pense à Tom Brady, là, c'est le premier nom qui nous vient en tête. Mais il y en a plein des athlètes de 35 ans et plus maintenant qui performent. Donc la courbe est beaucoup plus longue et est beaucoup plus stable. Donc, pourquoi on met des règles comme celle-là? Ben ça, c'est chacun des sports doit revoir sa façon de faire.
L'excellence, elle doit venir de qui? Du jeune qui a le goût de performer ou du parent qui souhaite que son enfant performe?
Oui, bien, Et ce que je raconte dans les, puis pour moi, c'est crucial qu'on définisse bien les choses. L'excellence, ça ne veut pas dire d'être premier, puis
ça
de
veut
gagner,
pas dire la victoire, hein?
Puis d'être un champion. Non, parce qu'on a tous notre niveau d'excellence. Et ça, c'est ce qu'on doit s'imposer à nous et à tous ceux avec qui on travaille.
C'est viser mieux, dans le fond.
C'est quand on sous-performe, là, ce qui est un mauvais mot, mais quand on ne performe pas à la hauteur de nos attentes, c'est là où on n'a pas atteint l'excellence. Donc, pour moi, il faut regarder les conditions, tout ce qui est autour, et voir quel est le potentiel de ce jeune-là. Est-ce qu'il sous-performe ou pas? Et c'est là qu'on peut vraiment venir établir nos barèmes, à savoir est-ce qu'on excelle ou on n'excelle pas. Et c'est pour ça que je trouve que dans la société, on doit, tout le monde, puis comme je l'ai dit un peu à la blague des fois, y a-tu quelqu'un qui va être moins bon demain? Y a-tu quelqu'un qui va être poche demain?
Y a personne qui aspire à être une pente descendante, là. Absolument pas. Mais par contre...
On se doit, nous tous, à se donner les outils comme vous pour être des meilleures animatrices. Vous allez faire ci, vous allez faire ça, vous voulez être meilleur demain. Donc, dans tous nos domaines, il faut faire nos devoirs, puis il faut se préparer. Mais en bout de ligne, le résultat, on ne le contrôle pas toujours. En fait, on le contrôle rarement.
Comment on fait pour garder un jeune motivé? Parce que, tu l'as dit, là, l'excellence, ça ne veut pas dire nécessairement la victoire à chaque fois. Sauf qu'il y a des parcours qui peuvent être plus ardus que d'autres. Peut-être que l'excellence n'amènera pas nécessairement les résultats qui seraient souhaités dès le départ, mais il y a peut-être un manque de persévérance là-dedans aussi. Là.
Oui, parce que souvent, même on met pas l'environnement pour que les jeunes puissent s'épanouir. Moi, je le dis, je suis quelqu'un qui croit qu'on doit mettre les résultats comme objectif au bon moment. Dans des sports où on commence à mettre des résultats à 6, 7, 8, 9 ans, je trouve que c'est trop tôt. On devrait jouer à ce moment-là, puis jouer à plein de sports.
On n'avait pas vu ça.
Ben oui, dans le hockey, beaucoup.
Puis dans le soccer aussi, chez les plus jeunes, ça avait circulé dans les derniers mois. On veut leur faire faire des matchs, pas de score, pour leur apprendre à jouer, à se dépasser, à bien réussir, sans avoir à vivre nécessairement avec le poids de le chiffrer, ce résultat-là.
Exact.
Puis ce qui arrive dans ce temps-là, tu as la levée de bouclier des agents, donc conservateurs, de ça a toujours été de même, fait qu'on garde cette logique-là.
Oui, ils apprendront pas à perdre.
Tu sais, l'espèce de non, on a appris de même, nous, c'est de même. Puis moi, c'est le hockey que je connais un peu plus, mais donc ça a été un des exemples. Quand on a changé les patinoires novices pour les plus petits qui jouaient sur des grosses patinoires, les mêmes que la LNH, mais qu'on a dit à un moment donné, hey, on va couper ça en deux, puis on va faire deux games, une à gauche, une à droite. Au début, c'était critiqué de toutes parts, mais finalement, ça a été un changement qui maintenant est apprécié par tout le monde. Là. Mais donc, oser, mais tu le dis dans le livre.
Faut faire des choses différemment, faut oser. Mmh. Puis le problème, c'est que souvent, tous ces règlements-là sont... Ou ces façons de faire-là, devrais-je dire, c'est fait par des motivations tout simplement financières. Hein. Qu'on joue au hockey à l'année longue, c'est parce que les clubs de hockey ils veulent payer leur coach. Qu'on joue au soccer à l'année longue, c'est la même chose. Et c'est de la bouillie pour les chats. Okay? Des patineurs, des joueurs de soccer, des joueurs de hockey ne devraient pas faire ça à l'année longue jusqu'à au moins l'âge de 12-13 ans, selon les sports.
Ça devrait être
multisport avant ça? De développer
des assets
complets. Le problème, puis je le vis présentement, ben oui, il faut tout faire de tout. Et même d'autres horizons que sportifs, mais restons dans le sport. Et c'est pas facile, parce que je le vis présentement en tant que parent avec des jeunes de 10 et 12 ans. Oh là, les coachs, même les autres parents vont te faire sentir que tu prends du retard parce que tu n'as pas fait le camp d'entraînement du printemps. Tu seras peut-être pas sélectionné à l'automne. C'est tout motivé par la mauvaise façon. Mais moi, j'en fais un malin plaisir à venir convaincre les parents autour de moi puis les entraîneurs. Mais je veux dire, moi, c'est ma job. Mais pour un parent qui, lui, n'a pas trop le background sportif que j'ai et l'expérience, c'est sûr que tu te fais prendre. Mmh. C'est sûr que tu te fais prendre.
Oui,
c'est un changement complètement du système sportif qu'on doit revoir pour que on ne laisse pas le hockey prendre la décision tout seul, on ne laisse pas la gymnastique prendre la... cette réforme-là, je vais être bien franc avec vous, elle n'arrivera pas. Tant qu'on n'aura pas de plus en plus d'exemples d'athlètes qui ont performé en performant dans plusieurs sports jusqu'à un certain âge, puis on le démontre de cette façon-là. D'ailleurs, les athlètes qu'on supportait pour B2TEN, vite comme ça, qui ont médaillé à Vancouver 2010 sur 12. Il y en a juste une qui a performé dans le sport qu'elle a juste fait dans sa vie, puis c'est la patineuse artistique Joanie Rochette.
Ah, pas vrai?
Toutes les autres, c'était pas leur premier sport, c'était leur deuxième, leur troisième sport, qui vers 14-15 ans se sont spécialisés et sont devenus des champions dans d'autres choses.
Fait que dans le fond, au plus jeune âge, là, tu laisses faire de le mur à mur, même si l'enfant aime ça, t'es obligé de l'inciter à essayer autre chose. Parce qu'il y a ça aussi.
Ouais. Puis ça, tant mieux. Là, si t'as ça, là, t'as le numéro un, le critère numéro un du succès, il trippe tellement qu'il veut arracher la porte pour aller en faire. OK?
Ouais.
Ça, critère numéro un. Parce que si c'est toi qu'il faut qu'il défonce la porte ou qu'il pousse ou qu'il botte le derrière, ça ne marchera pas. Comment qu'il en fait 12 heures par jour, ça ne marchera pas. Alors, tu le retiens un peu, puis tu lui dis, hey, regarde, on va faire d'autres choses. Et c'est, hey, là, t'as la meilleure situation. Mais c'est pas toujours facile parce que le premier critère est très peu souvent rempli parce que c'est souvent des parents qui forcent puis qui poussent dans des disciplines que l'enfant, peut-être qu'il aime pas vraiment ça.
T'sais. Disons, je l'ai traduit ainsi, des critiques quand même envers le modèle canadien ou le modèle de, d'entraînant, puis d'entraîneur et ce truc-là, parce que c'est l'approche unique envers les athlètes et non pas un plan global pour tout le monde, parce que chaque athlète est unique et chaque athlète doit se faire entraîner d'une manière différente. C'est un beau plan, on comprend la logique, puis tu sais, c'est évident. Est-ce que le problème de ce plan-là, c'est que les ressources... Si tu as 2000 athlètes, tu peux pas avoir 2000 coachs qui vont complètement se dédier à une seule personne. C'est normal d'avoir un coach pour un certain nombre d'athlètes. Mais là, ça devient-tu impossible comme proposition?
Oui, d'individualiser dès un tout jeune âge, effectivement. Par contre, ce qu'on doit faire rendu à un certain niveau, puis ça pourrait être différent de chaque sport, ça pourrait être dans le junior majeur si tu connais bien le hockey, ou même peut-être dans le midget 3A à la limite. Mais avant ça, ça peut être plus généraliste parce que, bon, c'est des enfants. Puis tout ce qu'on veut à ce moment-là, c'est leur inculquer de la discipline puis la passion pour le sport. Ouais. Après ça, quand on est dans le spécifique, donc pour nous, dans le monde du sport olympique, tant qu'on n'est pas sur l'équipe provinciale, même, je dirais, sur l'équipe nationale, où là, si on pouvait se le permettre, effectivement, comme pays, c'est ça qu'on doit, c'est de procurer cette individualisation-là au maximum pour nos athlètes qu'on veut envoyer aux Olympiques un jour. C'est pour ça qu'on a créé notre fondation B2TEN. C'était pour le procurer à certains athlètes, sachant très bien que ça coûte très cher. Le problème, c'est que le gouvernement ne mettra pas beaucoup plus d'argent dans le sport s'il en met même 5-6 % de plus. D'ailleurs, je n'ai pas lu le budget aujourd'hui. Peut-être que vous pouvez me l'annoncer. Je ne pense pas qu'il y a bien
78 milliards, mais il n'y a rien dans le sport.
En déficit, ça.
Ouais. Rien dans le sport. Bon, tu vois, je n'étais même pas curieux tellement que j'étais certain.
En fait, c'est peut-être des petits caractères. On ne s'est pas encore rendu jusque-là. C'est quand même une brique.
Oui. Non, on verra. Ben, vous me le direz si vous voyez quelque chose. Et par contre, ce qu'on devrait faire, c'est de revoir qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là puis le système. Et pour moi, on devrait s'en garder une plus petite portion qui est pour justement aider ceux qui sont au top puis de donner un meilleur support général pour tous les autres sports et les autres organisations.
Parce que l'exemple dans le livre, c'est Tessa Virtue Scott Moore avec qui tu as travaillé. Puis ça, c'est un exemple quand même flagrant et marquant aussi de qu'est-ce que ça a apporté la fondation, là. Ben, l'organisme.
Puis pour donner une idée, je me rappelle plus si j'ai parlé du prix dans le livre, là, mais ça coûtait 125 000 par année pour les supporter.
Ça donne un ordre de grandeur.
c'est un des sports les plus chers quand même, le patinage artistique à ce niveau-là. Mais il y aurait quand même des exemples proches de la centaine de milliers de dollars là, dans plusieurs autres sports. Donc,
on est en train de parler avec Dominique Gauthier qui lance son livre « Oser l'excellence ». Dom, j'ai le goût qu'on parle d'équilibre, par exemple. Puis dans ton livre, tu l'illustres bien. Toi, ton objectif d'excellence puis de victoire, il a fallu que tu le vives à la dure pour essayer d'équilibrer le tout. T'as un jeune ou une jeune qui trippe dans son sport, veut atteindre les hauts niveaux, mais quand ils vont frapper des murs, il faut qu'ils soient outillés pour être capables de continuer, se relever, pas trouver ça trop dur. Est-ce qu'on est rendu meilleur comme société pour gérer ces attentes-là que des fois on va avoir envers nous-mêmes?
Je pense pas que non, on est rendu meilleur. Je pense que jusqu'à un certain niveau, on est plus conscient de la santé mentale là, dernièrement, donc comment on peut mieux préparer et entraîner les jeunes à vivre ces échecs-là. Puis je pense que c'est ce qu'on devrait faire aussi à l'école, de ne pas juste enseigner à écrire, à lire et à compter, mais d'enseigner à comment gérer la pression. L'anxiété, c'est tellement un thème qui ressort toujours. Et souvent, lorsque les gens en parlent, ben, ça fait déjà 5, 6, 7, 10 ans qu'ils sont en crise interne parce que c'était tellement un tabou à l'époque. Je pense que maintenant, on ose en parler et tant mieux. Et pour moi, ça démontre qu'on devrait, comme on le fait avec les athlètes maintenant, préparer nos jeunes à cette anxiété de performance-là qui va venir. Et c'est là où je veux emmener, où des fois je trouve qu'à l'école, on ne les prépare pas à ça. On veut tellement les couver, les protéger, alors qu'on devrait les entraîner. Parce que la vie, comme je le disais plus tôt, elle n'est pas juste. Tu sais, quand tu vas faire ta première entrevue, là, quand tu vois les papillons, puis tout, comment on peut gérer ça? Voici les exercices de respiration. Voici les exercices de visualisation que tu peux faire lorsque tu vas aller rencontrer la première personne qui va peut-être te donner une job. Ce genre de truc-là qu'on fait, nous, dans la performance sportive, qui devrait être appliqué dans la performance de la vie de tous les jours, parce qu'on est dans la performance, tout le monde. On veut exceller.
Il y a des parents...
J'ai fait un petit détour pour te répondre, là, mais...
Non, c'était beau.
Je trouve que c'est un magnifique détour. On dirait qu'il y a des parents qui, peut-être qu'à une certaine époque, il y aurait été des parents qui auraient mis une pression indue sur leurs jeunes, qui actuellement mettent la pression sur des jeunes qui ne sont pas les leurs, que ce soit d'autres athlètes qui pratiquent le même sport que leur enfant, que ce soit des coachs, que ce soit des arbitres. Puis pour eux, c'est un peu une manière de dire « Non, mais moi, je veux les forcer, je veux que ça aille plus loin. » On a-tu aussi déplacé des problèmes à travers cette espèce d'emballage de papier bulle-là?
Oui, j'ai beaucoup cette conversation-là dernièrement. Je l'ai eu encore hier. Je parlais avec Jennifer, ma conjointe, de ça. Des parents fous. Puis on se demandait, tu sais, jusqu'à quel point c'était pire maintenant et tout. Mais je pense qu'avant, on le voyait, ou on en parlait juste genre au hockey. Là. Mais là, c'est bien au-delà du hockey. C'est dans tous les sports. C'est sûr que le hockey, comme il y a tellement une aspiration à être riche un jour, il y a ça qui vient vraiment amplifier la chose, sauf que là, maintenant, le monde, ils doivent le voir dans le soccer, on le voit dans le ski alpin, on le voit partout.
Au Jeux du Québec.
C'est tellement déplacé pour moi, ça. Là. Hein?
Au Jeux du Québec, tu l'as observé aussi cet été?
Ben oui, j'avais vu cet article-là aussi. Tu sais, c'est comme, peu importe comment vous criez fort contre l'arbitre, contre le coach, contre les enfants, contre le coéquipier qui n'a pas fait la passe, mais vous êtes complètement à l'extérieur de la traque. Là. Vous êtes tellement off. Mais... Là, c'est un problème de société, c'est au-delà du sport. Moi, j'aimerais ça être dans toutes les arénas puis aller discuter avec tous ces innocents-là.
Essayer de les raisonner un peu. Ouais.
Puis là, j'ai dit aréna, là, mais encore une fois...
on a eu des problèmes ici avec des terrains de soccer pendant le tournoi du Tré-Carré, puis c'était franchement pas glorieux. Puis c'est une équipe de jeunes qui a été pénalisée parce que leurs parents ne savaient pas vivre.
Tu sais, tu vois, on parlait plus tôt en début d'entrevue là, des mauvaises presse, de la mauvaise presse qu'on a pour le sport, mais ça, c'est une autre affaire. T'sais. Fait que là, tu entends ça en tant que jeune parent, tu dis ouais, ben là, moi, je n'amènerai pas mon enfant dans cet environnement-là. Alors que ça devrait être juste le plaisir, ça devrait être simple. Puis oui, on veut gagner, c'est correct d'être compétitif. En bout de ligne, là, les arbitres, là, ils vont faire des erreurs. Puis des fois, ça va jouer pour vous. Des fois, ça va jouer contre vous.